Bonjour à tous et bienvenue à Chant contre Chant, émission présentée par l'association Profil, qui vous repose son regard mensuel sur le cinéma. Émission qui vous sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Jean-Michel Duquer, bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Et Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, au fond, l'industrie du cinéma fonctionne un peu comme celle du prêt-à-porter. Il y a la routine de la vente au quotidien, et il y a le coup de fouet au marché apporté par les soldes. Dans le cinéma, ce qui ressemble aux soldes sont les festivals et la remise des Oscars et des Césars qui viennent donner un coup de projecteur sur les nouveaux produits. Nous venons ainsi de vivre successivement la période des Césars et des Oscars. Césars qui ont vu la consécration de 120 battements par minute dont nous avons parlé en décembre. Quant aux Oscars, ils ont largement plébiscité la forme de l'eau de Guillermo del Toro. Nous l'avions laissé passer en février, nous nous devions de nous rattraper ce mois-ci. Il sera donc à notre programme aujourd'hui, en compagnie de Tesnota, un film du jeune russe Kantemir Balagov et de Razia, film marocain de Nabil Ayouch. C'est un programme qui vient beaucoup de l'étranger, j'en conviens, espérons que les coups de cœur qui suivront permettront d'apporter un peu de francophonie à cet ensemble. Donc on va donc commencer tout de suite avec La forme de l'eau, film tourné aux États-Unis par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui connaît une carrière assez fracassante, puisque après avoir remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2017, il vient de recevoir en 2018 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Le personnage de Guillermo del Toro étant tout aussi fracassant. Né au Mexique en 1964, puis expatrié aux États-Unis en 1997, il est réalisateur, mais aussi scénariste, producteur, écrivain, concepteur de jeux vidéo, et explore sans se lasser les domaines du fantastique, de l'horreur, des univers parallèles et du paranormal. Avec à son palmarès des blockbusters comme Hellboy ou Pacific Rim, et surtout en 2006, Le Labyrinthe de Pan, conte fantastique et parabole sur l'Espagne, qui lui vaut une standing ovation de 20 minutes à Cannes et un succès considérable dans le monde entier. Jacques, avec cette forme de l'eau, est-ce que Guillermo del Toro explore de nouveau la forme du conte ?
Oui, tout à fait. C'est en fait un remake de La Belle et la Bête, transposé aux États-Unis pendant la période de la guerre froide. La Belle, c'est Elisa, une jeune femme muette, mais pas sourde, interprétée par Sally Hawkins, et qui est employée comme femme de ménage dans un centre militaire américain. La bête est une créature verte, mi-poisson, mi-homme, mais au visage beau comme un dieu. Elle, ou plutôt il, a été trouvé au fond d'un lac d'Amérique du Sud, où il était vénéré comme une divinité par les Indiens locaux. Et il est joué par Doug Jones, le plus célèbre acteur que vous n'avez sans doute jamais vu, car il s'est spécialisé dans les rôles de monstres et reste toujours caché derrière ses maquillages. Quant au château de la Belle, c'est un vieux cinéma local délabré, dans lequel elle occupe un appartement au-dessus de la salle presque toujours vide, et l'antre de la bête est une galerie de béton ultra sécurisée, dans laquelle l'armée la garde prisonnière.
Et bien sûr, comme dans tout conte qui se respecte, il y a des bons et il y a les méchants.
Eh oui, alors, outre la Belle et la Bête, du côté des bons, nous trouvons d'abord le voisin d'Elisa, un vieil homosexuel, dessinateur sans travail, qui vit seul avec ses chats et passe des heures devant sa télé à regarder des comédies musicales. Et il y a aussi la collègue d'Elisa, une robuste noire au cœur d'or, qui a pris la Belle sous sa protection et qui, elle, n'est pas muette et n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'est d'ailleurs pas indifférent que les bons soient des êtres différents et rejetés, soit pour leur homosexualité dans le cas du voisin, soit pour la couleur de leur peau. Et du côté des méchants, sans surprise, on trouve les militaires, un affreux agent de sécurité machiste, sadique et raciste, tout ça, interprété par Michael Shannon, qui s'est fait pour l'occasion le visage de Frankenstein, et aussi son supérieur, un général aussi borné que cynique. On trouve aussi quelques espions russes, assez ridicules, puisque nous sommes en pleine guerre froide au début des années 60, et tout ce petit monde militaire n'a qu'une idée en tête, que l'ennemi ne puisse pas profiter des capacités surnaturelles de la bête.
Et la bête, elle, va tomber amoureuse de la bête.
Bien sûr, et l'attirance sera réciproque. Ces deux êtres solitaires et rejetés par la société pour leurs différences ne peuvent que tomber dans les bras l'un de l'autre, même si c'est parfois un peu compliqué avec une créature amphibie et griffue. Elisa, assistée de sa collègue et de son voisin, va donc tout faire pour faire échapper la bête. Et ils vont être aidés par un espion russe déguisé en savant. On pourrait plutôt dire d'ailleurs un savant déguisé en espion qui veut que la bête vive pour pouvoir l'étudier. Alors le film va alors basculer dans le thriller lorsque nous suivons la tentative rocambolesque d'enlèvement de la bête.
Le film emprunte donc à plusieurs genres.
Oui, il emprunte donc au conte philosophique, on l'a dit, sur le thème de la différence, mais aussi au cinéma fantastique, au pastiche de films d'espionnage, au thriller, on pourrait même dire à la comédie romantique, quand l'amour rapproche les deux héros. Mais surtout, il est remarquable par l'humour qui accompagne ce récit extravagant et par la qualité apportée à l'image et à la musique. Les décors très travaillés font aussi faux qu'un décor de théâtre. Les éclairages baignent dans des tons bruns et verts, symbole du milieu aquatique. Il y a d'ailleurs beaucoup d'eau dans le film, qu'elle vienne du ciel ou des baignoires qui débordent. La musique que l'on doit à Alexandre Desplat est excellente, elle accompagne parfaitement l'action. Les acteurs sont aussi très bons et on ne s'ennuie pas un instant à cette histoire fantastique. Bref, pour moi, un divertissement de très grande qualité qui mérite totalement les nombreuses récompenses qu'il a reçues.
Ben Jean-Michel, est-ce que toi aussi tu considères que ce film mérite tous les lauriers dont on l'a couvert ?
Ah, je fais écho complètement. J'ai beaucoup aimé ce film surréaliste du joyeux drille mexicain au visage de Michael Moore, Matinée d'Orson Welles, et au fort tempérament marqué par la guerre d'Espagne. Et on n'a pas oublié, vous l'avez rappelé, le labyrinthe de Pan, réalisateur qui est fasciné par Cocteau et à l'évidence. Ici, le fantastique débridé se conjugue avec un romantique effréné, Jacques l'a dit, et ce film qui pour moi est un nouvel Avatar ou un hybride de La Belle et la Bête ou de King Kong même, est porté par la magnifique actrice anglaise que j'adore, qui est Sally Hawkins, qui a joué dans les films de Mike Lee, en particulier dans l'inénarrable Be Happy, si oui. Vous vous rappelez, et qui a ici appris la langue des signes et les claquettes pour le film. De fait, en pleine guerre froide, ça a été rappelé, cette héroïne muette joue un rôle totalement drôlatique dans ce thriller fantastique qui est aussi un roman d'amour, il faut bien le dire, sans compter qu'on y chante et qu'on y danse.
Si c'était pas une histoire de, c'était pas une histoire de La Belle et la Bête, c'était pas une histoire d'amour.
Oui,
forcément, c'est une histoire d'amour.
Et en fait, un grand film poétique qui est bourré de références et qui, pour moi, est le meilleur film de Guillermo del Toro à ce jour.
Françoise, est-ce que tu portes à cette admiration?
Oui, j'ai l'impression qu'on va pas vraiment discuter du film parce qu'on est tous béats d'admiration.
On est
tous béats d'admiration. Moi, je suis sortie du film comblée en disant « Mais il y a des mois que je ne suis pas sortie d'une salle de cinéma ». Aussi comblée, je volais, j'étais dans un petit nuage. C'est un des plus beaux films que j'ai vus depuis fort longtemps. Un enchantement, un film visuellement envoûtant. Mais qu'est-ce que j'aimais, j'en parle à tout le monde. En disant, allez le voir, c'est magnifique. J'ai aimé, bien sûr, tu dis c'est un conte philosophique, tout à fait. Moi, j'aime bien cette dimension-là de la métaphore. Les monstres ne sont pas ce qu'on croit.
Oui.
Et j'aime bien que les exclus soient dans les sous-sols. Et que ce soit finalement eux, ce sont les exclus qui font peur. Hein. On a l'impression que c'est ça que dit le film. Ces gens-là nous font peur. On les prend comme des monstres. J'ai adoré la séquence du pas de deux entre Elisa et le monstre. J'avais envie que ça dure tout le temps, tellement c'était beau.
Mais c'est le seul moment où elle parle finalement.
Oui.
Où elle chante.
Oui, ouais. Elle chante. Et puis il y a également ce que tu disais, Jean-Michel, la séquence des claquettes,
les
pieds qui jouent qui dansent les claquettes devant le canapé et on voit juste les pieds qui dansent. Il a des idées.
En fait, c'est ça. C'est bourré d'imagination.
Oui. Et alors la première séquence est géniale parce que on arrive sur l'écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des meubles qui flottent. On dit tiens, c'est pas normal. Ils flottent dans l'eau. On est dans un immense aquarium. C'est un appartement avec l'eau partout. On comprend pas pourquoi, mais c'est beau comme tout. On a envie d'aller nager là-dedans. Et il y a des tables, les chaises, tout ça qui vole.
C'est une utilisation de la caméra qui est remarquable parce que c'est long plan séquence flottant au début. C'est pas du tout gratuit. C'est pas du tout pour faire démontrer qu'on sait une caméra. C'est parce que finalement, on est là-dedans. Comme un poisson dans un aquarium. La caméra, elle se déplace dans l'espace comme un poisson dans un aquarium. Ça, je trouve que c'est remarquable.
Et on est tellement bien dans cet aquarium.
C'est très travaillé.
Vous dites la Belle et la Bête. Moi, j'ai pensé à Tim Burton. Chose comme Edouard. Aux mains d'argent, ou bien c'est ça, il a des ciseaux. J'ai pensé un peu à du Tim Burton, mais avec une autre façon de mettre en scène. J'ai énormément aimé ce film, vraiment.
Et puis, Jean-Michel parlait de cette cette belle qui est muette, je trouve que c'est une sacrée idée, parce que finalement, ça ajoute un mode de communication qui n'est pas habituel. Et puis en plus, on est dans le monde du silence, finalement,
d'autant plus
avec cette belle qui sort de l'eau.
Elle n'est pas sourde, donc finalement, ça permet effectivement quelque chose qui est plus...
Et c'est beau la communication, parce que ça commence avec l'œuf dur qu'elle va poser au bord du bassin, et la bête surgit avec un regard, mais inoubliable, on comprend qu'elle a le coup de foudre. Ouais. Et elle lui pose un œuf.
Elle est belle, la bête.
Elle est belle, la bête, elle est magnifique. Et lui, il va aller chercher l'œuf, on s'y attend pas du tout. Et ensuite, elle lui amène un phonographe et elle lui met de la musique. Et la bête est sensible à la musique. C'est magnifique. D'un bout à l'autre, c'est magnifique.
Et puis, je trouve cette salutation du fait qu'elle est muette prête à des moments inénarrables. Je pense au moment où elle explique à sa copine, si je puis dire, l'équipement sexuel de la bête. C'est irrésistible. Pas seulement avec les mains. Je ne sais pas si c'était le langage des signes approprié, mais c'est merveilleux.
Oui, c'est très beau. Les décors sont extraordinaires.
Les éclairages sont
les
très travaillés.
Ils sont
complètement irréels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on suit le héros va être éclairé ou l'héroïne va être éclairée, alors que ça n'a aucune justification réelle, si vous voulez. Elle va être toute seule éclairée dans un bus, par exemple.
Oui.
Mais c'est magnifique.
Et puis il y a les deux gouttes d'eau, sinon qui se rejoignent. Enfin, il y a des idées de mise en scène.
Moi, j'ai quand même un bémol.
On n'autorise pas.
J'ai été quand même assez déçu par la bête elle-même. J'ai trouvé que ça faisait plastique. Ah. Que l'espèce de carapace qu'elle a, ça fait plastique. Avec cette espèce d'abdomido en plaquette de chocolat. Moi, ça me rappelle l'époque où j'avais des petits garçons qui achetaient des Big Jim. Et c'était, ça me fait penser à ça.
Voilà. Oui, mais ça va avec le reste. Parce que, si tu veux, rien n'est réel. L'appartement est complètement déjanté. Enfin, je dirais, donc, la bête aussi, quoi. Hein, la bête, ils n'ont pas cherché à rendre quelque chose qui soit plausible.
Oui, effectivement.
Ils ont fait un espèce de beau monstre verdâtre, effectivement, parce qu'il fallait quand même qu'il le soit
un peu
verdâtre.
Qui n'est pas réaliste.
Qui n'est pas plus réaliste que le reste.
Non.
En fait, c'est une bête qui ne fait pas peur. Elle ne fait pas peur, la bête.
Elle ne fait pas peur.
Elle ne fait pas peur, même avec toutes ses griffes et tout ce qu'elle a, toutes ses écailles, elle ne fait pas peur.
Est-ce que vous avez interprété le fait qu'elle mange des œufs durs?
Ben non, moi, je n'ai pas compris.
Est-ce
que vous avez une
explication à donner à sa passion pour les œufs durs?
Pourquoi l'œuf?
Pourquoi
un œuf, c'est symbolique quand même, c'est métaphorique, mais quoi?
Une référence, mais je n'ai pas non plus...
Mais c'est un objet signifiant, moi, je crois. C'est un objet signifiant, mais je n'ai pas trouvé de quoi.
Et puis cette fin, et cette disparition à la fin, cette plongée, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Qui rejoint le début, puisqu'au début, on est déjà dans cet univers aquatique où il y a les meubles qui flottent dans l'eau.
Ah, mais là, il ne faut pas le dire, parce que ce n'est pas tout à fait la fin de La Belle et la Bête.
Là, oui, oui.
Il y a un peu de surprise à la fin.
Oui, là, c'est un peu l'inverse. Dans le plan classique, c'est la bête rejoint le monde de la belle.
Exactement.
Alors que là, c'est la belle qui va chez la bête.
Voilà. Ah oui.
Oui, mais et alors là, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de personnages secondaires aussi, mais c'est très unifié autour du conte fantastique de la Belle et la Bête.
Oui, bien sûr. Oui. Et les paysages secondaires sont remarquables aussi. Et ils sont traités dans un mode encore plus loufoque, quoi, ce qui fait que finalement, ça passe très très bien.
Oui. Bien, je crois que pour une fois, on a un peu l'unanimité sur un film.
Ça commence bien.
Ça commence bien. Nous allons maintenant passer au suivant. Nous allons revenir à un cinéma davantage inscrit dans la réalité, avec Razia, le dernier film de Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, c'est un cinéaste marocain, et courageux, il faut le dire, de 48 ans, qui, dans son œuvre, ne cesse de se confronter à la réalité sociopolitique de son pays, et ceci depuis Mektoub en 1997. Avec en particulier, rappelons-le, Les Chevaux de Dieu en 2012, où à la suite des attentats qui ont ensanglanté Casablanca en 2003, il tentait d'analyser le processus de radicalisation qui avait conduit un groupe de quelques jeunes au terrorisme. Avec aussi plus récemment Much Loved en 2015, qui racontait l'univers de la prostitution à Marrakech et qui avait valu à son auteur d'être menacé et interdit de diffusion pour, je cite, « atteinte flagrante à l'image du pays ». Et le voilà de retour avec Razia, où à travers plusieurs histoires différentes, c'est toujours la société marocaine qui est mise en scène. Alors Françoise, pourquoi ce titre? Comment peut-on l'interpréter?
Razia, alors moi j'ai ouvert le dictionnaire qui dit « Razia égale invasion faite par des pillards sur un territoire étranger ». Donc pillards qui font main basse sur ce qui ne leur appartient pas. D'où viennent-ils? Que viennent-ils faire au Maroc? Et surtout, qui sont-ils? Alors la réponse pourrait bien nous être signifiée dès les toutes premières images du film. La scène se passe en 1982 dans un petit village berbère du Haut Atlas. Des paysages sauvages d'une beauté à vous couper le souffle. Et là, on découvre un instituteur, Abdallah, en pleine nature, avec ses jeunes élèves à qui il offre rien moins que l'immensité du monde, la lumière et la beauté. Abdallah enseigne les enfants en berbère, qui est la seule langue parlée dans cette région isolée du Maroc, jusqu'à ce qu'un sinistre envoyé du gouvernement fasse irruption dans sa classe et déclare froidement « Notre seule langue, c'est l'arabe, la langue du Coran ». Les enfants vont perdre à la fois le sens des mots et le sens du monde tout entier, que leur maître ouvrait à leurs yeux jusqu'à l'infini. Désarroi puis désespoir du jeune maître qui va s'en aller. Remplacé immédiatement dans sa classe par des religieux venus du Moyen-Orient qui opèrent une reprise en main de l'école aussi brutale que désastreuse. Car comme le dit Nabil Ayouch, derrière la langue, il y a la religion. C'est la porte d'entrée pour un islam qui n'est pas notre islam, qui lui n'a rien à voir avec le salafisme ou le wahhabisme en vigueur en Arabie Saoudite. Mais dit-il, beaucoup de gens refusent de voir que le Maroc a changé. C'est alors l'arabisation forcée et c'est du drame de la dépossession dont parle ce film. Cette razzia sera suivie de beaucoup d'autres et elle porte en germe les révoltes à venir 30 ans plus tard, semble-t-il.
Oui, parce qu'à côté de l'instituteur, Nabil Ayouch nous amène à côtoyer d'autres personnages, hein, victimes de la montée de l'intolérance, des interdits moraux, religieux.
Et en première ligne, les femmes. Les femmes, bien entendu, le film a été écrit à quatre mains avec Marianne Touzani, qui est à la fois la co-scénariste et la compagne de Nabil Ayouch. Elle joue le rôle de Salima dans le film, une très belle jeune femme, court vêtue, cheveux au vent, qui aime la vie. C'est quoi cette obscénité? Que Dieu nous protège du vice, s'indignent les passants. Salima, dans le film, est l'épouse d'un homme instruit, et pourtant, celui-ci considère qu'il lui revient de dicter sa conduite à sa femme, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle met, qui elle rencontre. Salima est une femme intelligente et courageuse, elle va donc résister, tout en sachant les risques qu'elle encourt. C'est aussi, à mes yeux, un film sur la résistance. Mariam Touzani, d'ailleurs, nous dit « Il y a 5 ans, je pouvais encore aller me baigner sur la plage en bas de chez moi en maillot de bain de pièces, sans réfléchir. Maintenant, c'est devenu compliqué. Autour de moi, je ne vois plus que des femmes en niqab qui se baignent totalement habillées. » Le film raconte encore l'histoire de 3 autres personnages de la société marocaine d'aujourd'hui, à savoir Inès, une adolescente très perturbée dans les quartiers riches de Casablanca, Hakim, qui est un jeune chanteur issu des quartiers populaires, en butte avec l'homophobie ambiante, un restaurateur juif et son vieux père qui ne peuvent que constater la disparition de la communauté juive au Maroc.
Oui, à propos du Maroc, tu peux dire quelque chose sur la réception de ce film au Maroc ?
J'ai lu que le film bat des records d'entrée dans les salles marocaines. La jeunesse marocaine applaudit. Une jeune fille en terminale à Marrakech était en larmes après la projection et elle disait « Mais tout ça, moi je l'ai vécu ». Et une spectatrice ajoutait « Mais tout le monde connaît cette réalité, mais là au moins, il la voit ». Alors, pour conclure, moi je dirais que Nabil Ayouch est, et tout le monde le sait, un homme courageux, un homme intelligent, alors on lui souhaite le meilleur.
Oui, sur ce point, on peut être d'accord avec toi. Enfin maintenant, Jacques, est-ce que pour toi, Nabil Ayouch, avec ce film, a donné le meilleur de son cinéma ?
Je suis partagé sur ce film. C'est un beau film au plan formel, mais dont le scénario m'a un peu dérouté. D'abord, il y a ces deux parties, de 82 et 2015, mais qui sont finalement à la fois très déséquilibrées, pas tellement raccrochées l'une à l'autre. Bon, il y a bien un ou deux personnages qu'on retrouve, mais sans en faire vraiment quelque chose. Donc déjà, pour moi, c'est déjà un peu bancal. Et ensuite, dans la deuxième partie, qui est beaucoup plus importante, donc celle qui se passe en 2015, on suit beaucoup de personnages, on suit beaucoup d'histoires. Il a voulu, et je pense que c'est tout à son honneur, mais il a voulu montrer beaucoup de choses, mais ça nous perturbe un peu en tant que spectateur, parce que finalement la cohérence de tout ça n'est pas complètement évidente. C'est un peu par touche. Alors ce qui m'a interpellé, c'est qu'au fond cette forme de récit un peu morcelé qui se disperse entre beaucoup de spectateurs est un peu une caractéristique d'un certain nombre de films qu'on reçoit justement du Maghreb en ce moment. Je pensais par exemple aux Terrasses ou en Attendant les Hirondelles. On a l'impression que les cinéastes de ces pays actuellement ont vraiment tellement de choses à dire que finalement.
En attendant, le journal était quand même plus construit que
c'était plus construit, mais on se dispersait aussi entre plusieurs histoires qui ne se raccrochaient pas beaucoup l'une à l'autre. Et là, on a un peu ce même sentiment. Much Loved était beaucoup plus un scénario classique. Donc, pour nous, Français, on n'avait pas de problème à le suivre. Là, on reste un peu sur sa fin, on est un peu déstabilisé quoi par le scénario. Il reste qu'il y a des images magnifiques et là, moi j'ai beaucoup aimé le contrepoint entre les images du désert, des montagnes du début les images au contraire de la fin des émeutes. En fait, c'est les deux seuls plans larges. En général, on est dans des plans assez étroits, assez serrés. On a véritablement deux plans larges qui au fond se répondent. Donc il y a des choses intéressantes dans le film. Mais c'est vrai qu'il nous déroute un peu parfois.
Jean-Michel, tu es dérouté, toi, ou bien...
Je ne suis pas dérouté, je suis peiné. Je suis très peiné parce que... J'adhère à ce qu'a dit Jacques sur ce film. Je ne suis pas un admirateur complet de Nabil Ayouch pour ses films précédents. Mais pour moi, ce serait bien si le film s'était arrêté après une demi-heure, c'est-à-dire après le prologue assez prometteur où on voyait le beau personnage du professeur.
Ça ne fait même pas une demi-heure, d'ailleurs.
Ça ne fait pas une demi-heure,
ça fait 25 minutes.
Mais c'est le plus beau passage du film.
Où on voit ce professeur qui défend la langue berbère. Que parlent les enfants. Et on se demande à ce moment-là où on va aller. On est vraiment... On est en attente. Puis alors après, il y a d'autres pistes qui sont la révolte sociale dans les rues, mais avec des images qu'on a déjà vues, pour un spectateur occidental, pas les Marocains, bien sûr, peut-être, c'est quelque chose qui est un peu brut. La libération des femmes et de la jeunesse avec une forte connotation sexuelle, à mon avis un peu racoleuse, ne me plaît pas tellement. Et surtout, c'est exploité de façon, à mon sens, totalement anecdotique et frivole et déballé en vrac.
Avec un montage. C'est très anecdotique.
C'est très anecdotique, avec un montage de la temporalité. Qui est très désarticulé et qui fait que tout d'un coup, on revient en 82, on repart en 95.
Ça, c'est une faiblesse.
On est non seulement perdu, mais on ne voit pas la raison, parce que c'est très inefficace de faire un montage.
Oui, c'est ça. On ne voit pas le raccrochement. On ne raccroche pas les deux
derrière. C'est raccroché par la femme de l'instituteur, Ito, qu'on retrouve 30 ans plus tard et qui encourage la jeune femme à résister.
C'est fragile. Mais comme disait Jacques, c'est vouloir mettre trop de choses et les mettre un petit peu en vrac sans avoir une construction plus convaincante. Et moi, c'est ça qui m'a gêné, sans compter que le titre que tu as essayé d'expliquer ne me convainc pas complètement, parce que j'ai de la peine à vraiment en voir la pertinence.
Razzia sur la langue berbère, c'est une. On leur enlève
des
choses.
Il n'y a pas que la langue berbère, il y a tout le film, mais il n'y a pas que ça.
Oui, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose. On sent en plus que le film a été écrit à quatre mains. Parce que les séquences écrites par Nabil Ayouch et celles qui ont été écrites par sa compagne sont certainement différentes. Il a eu du mal à coudre tout ça ensemble pour en faire. Pour que ça vienne sur l'écran.
La jeune femme est courageuse et pleine de combativité. On aurait peut-être aimé qu'elle ait un autre périmètre de développement que ce qui lui est donné.
Donc un film imparfait, mais qu'on peut quand même conseiller. Bon, on va passer un petit moment de musique ensemble avant de reprendre la suite de notre émission. Eh bien, nous allons reprendre notre émission avec Testona, Une vie à l'étroit, un film de Kantemir Balagov. Kantemir Balagov a 26 ans, il est russe, il a été l'élève d'Alexandre Soukhourov. Il vient de réaliser en 2007 son premier film, Tesnota, Une vie à l'étroit, qui s'inspire d'un fait divers survenu en 1998 dans sa ville natale, Naltchik, capitale de la République de Kabardino-Balkanie, dans le Nord-Caucase. Il avait 7 ans à l'époque. Il a bénéficié pour tourner de l'appui de Sokourov, ce qui lui a permis de réunir les 150 000 euros nécessaires au montage du film, une bagatelle par rapport au budget habituel d'un film. Sélectionné à Cannes dans la sélection Un certain regard, son film a fait sensation. Il a reçu le prix FIPRESI, qui est le prix accordé par la critique internationale, et il ne cesse depuis de glaner des récompenses dans les festivals. Il nous arrive donc auréolé d'appréciations flatteuses. Jean-Michel, est-ce que toi aussi tu t'associes à cette admiration pour cette vie à l'étroit ?
Ouais, je n'avais pas vu ce premier film à Cannes et je l'ai donc découvert que récemment pour reconnaître que son coup d'essai est pour moi un coup de maître. J'ai été très impressionné dès les premières images par la cohérence de l'adaptation de la forme de ce cinéma au cadrage serré, à la sobriété d'une narration immergée dans la vie d'une petite communauté juive repliée sur elle-même. L'argument n'est cependant pas particulièrement original, même si Sokourov a comblé quelques lacunes du scénario. À Nalchik, capitale de la République autonome de Kabardino-Balkarie, dans le Caucase du Nord, Ilana, le personnage central, est une fille indépendante, ou un garçon manqué, comme on aurait dit jadis, qui préfère faire le mécanicien auto dans l'atelier de réparation de son père, aux grandes dames de celui-ci, plutôt que d'accepter un travail que veut lui proposer le rabbin. Un soir, son jeune frère David et sa fiancée sont kidnappés par la mafia locale, une rançon est réclamée. Comment réunir la somme nécessaire en ne faisant surtout pas appel à la police ?
Oui, enfin, le point de départ du scénario n'est donc pas pour toi très alléchant, apparemment. Pourquoi le réalisateur a-t-il fait ce choix ?
Non, il est vrai qu'au départ, je porte un regard circonspect sur cette histoire, ce fait divers qui est inspiré par des faits réels au sein de la communauté juive de Nalchik. Balagov dit qu'en fait, plus que la dimension de thriller de ce kidnapping, ce qui l'intéressait était de montrer comment une famille peut vivre un moment critique à travers la diversité conflictuelle des réactions des uns et des autres. Et ça, c'est assez fin. Il ne s'attache pas à l'aspect spectaculaire de l'enlèvement, dont la survenue est même annoncée sans pleurs ni gémissements, comme s'il s'agissait d'un événement habituel, mais à ses répercussions sur le positionnement de chacun des membres de la famille. Il fait de plus d'Ilana, le personnage principal, la conteuse du film, parce qu'il est convaincu que les femmes, dit-il, sont les héros de notre temps. C'est un clin d'œil au roman éponyme de l'écrivain russe Lermontov. Et c'est en effet d'Ilana, la fascinante Daria Jovner, dont on n'oublie ni le visage, ni le regard, ni l'énergie, et dont c'est la première apparition au cinéma, que dépend la progression de l'action. C'est elle qui imposera sa loi à son amant cabarde, Fallot, qui est Zalim.
En définitive, qu'est-ce qui fait pour toi l'authenticité et l'originalité de ce film ?
Eh bien, à côté de l'interprétation magistrale du rôle d'Ilana, c'est tout d'abord l'insertion politique et sociale de cette fiction qui n'hésite pas à critiquer les années 90 de la Russie post-soviétique et l'abominable guerre de Tchétchénie qui donne lieu d'ailleurs ici à une séquence insoutenable enregistrée sur VHS. C'est aussi la caractérisation nuancée de tous les membres de cette famille juive que son incarcération dans la société russo-cabarde conduit à l'implosion avec au premier plan l'affrontement de la mère et de la fille et l'éclosion progressive de l'autonomie du jeune frère David. Et c'est enfin la mise en scène austère, les ellipses du récit, l'attention à la composition chromatique de l'image et son format 4:3, presque carré, qui fait sentir cette vie à l'étroit et oblige les acteurs à être proches dans les plans à deux.
Oui, Françoise, est-ce que cette vie à l'étroit, hein, terriblement à l'étroit, t'a retenu ou bien t'a au contraire paru très étouffante et t'a donné envie d'en sortir ?
Eh bien, j'ai vu le film deux fois. La seconde fois,
signe.
J'ai vu deux fois parce que je n'avais pas tout compris la première fois. Il y a des ellipses qui m'avaient un peu dérangé. Ouais. Alors, je sais pas très bien que dire de ce film. Je peux dire que sur le plan cinématographique, sur le plan des images, sur le plan des cadrages, sur le plan des couleurs et de la mise en scène, je suis époustouflée. Je me dis c'est un très jeune réalisateur. Bon, il faut le garder en mémoire, époustouflée par la qualité des images. Le film lui-même est un film très froid. J'ai été très intéressée par la façon de filmer cette vie à l'étroit par des cadrages extrêmement serrés. Il va filmer jusqu'au grain de la peau. Enfin, on a l'impression d'entrer à l'intérieur du personnage, presque trop près, des très gros plans, très longs plans sur le visage décomposé, par exemple, de la jeune fille quand on l'explique qu'elle a été vendue et qu'elle va épouser Rafa parce que ses parents ont plein d'argent pour acheter son frère. J'ai trouvé ces plans bouleversants, enfin presque trop. Par ailleurs, que dire, les images insoutenables, intolérables
de la VHS,
dont
parlait
de la VHS, je me dis, ont-elles leur place dans ce film? Quelle est la raison? Je préfère ne pas me poser la question parce que ma réponse serait négative et sans doute ne servirait pas le film. Je n'ai pas supporté. Ouais. La seconde fois, voilà, j'ai fait attention. C'est un film dur parce qu'il est sur la haine.
Sur la pas uniquement haine. Quand même.
Bon, je crois que c'est un peu le dénominateur commun. T'as la communauté juive et la haine que lui portent les islamistes et les russes que les islamistes détestent également. Enfin, il y a que des gens qui se détestent dans la famille, même les relations, à part l'amour entre la fille et son père. C'est un film dur.
Oui,
Jacques, tu as aussi l'impression que c'est un film aussi.
Je n'emploierai pas le mot haine, moi j'emploierai plutôt le terme d'étouffement et de violence. Moi j'avais vu le film à Cannes et j'avais été frappé par deux choses. D'une part par son exotisme, parce que quand même les pays kabardes, on ne connaît pas tellement.
Non.
Et puis par la violence, mais pas tellement. Bon, il y a ces images effectivement insoutenables à la VHS, mais plutôt par la violence du propos, d'une certaine manière, de la situation, et par la violence, alors là, pour le coup, de la forme du film, de la manière de filmer. Jean-Michel en a parlé, on a un format presque carré. Bon, la caméra, bien sûr, à l'épaule, elle est quelquefois un peu trop agitée, mais bon, ça, c'est souvent le défaut des jeunes cinéastes. Les gros plans de personnages, notamment l'héroïne, qui se cognent littéralement, vraiment, au bord de l'écran, quoi. Même les scènes d'ensemble, comme les repas, on a l'impression que les gens sont coincés contre les murs.
Oui, on a l'impression que tout ça, c'est filmé, c'est surcadré en permanence.
C'est surcadré en permanence, on est vraiment complètement coincé. Tout est filmé de nuit, pratiquement, avec des lumières artificielles qui sont très crues, bleues, rouges, jaunes. En fait, le seul moment où l'on respire un peu, c'est tout à fait à la fin, quand ils partent. Et qu'il traverse la montagne, et qu'il enfin s'arrête dans la montagne, et enfin il y a du ciel. Donc c'est un film qui vraiment est intéressant sur le plan cinéma, parce que...
C'est étouffant.
Il vous étouffe. Il vous étouffe. Donc, après, on peut ne aimer ou ne pas aimer, mais c'est vrai que, avec les peu de moyens qu'il avait, quand même, bon, c'est un premier film, il a réussi une atmosphère travail de style qui est assez remarquable.
Et puis je trouve que vraiment, Jean-Michel en parlait, mais le travail sur les couleurs est absolument extraordinaire. Il fait penser d'ailleurs à son maître Glof, qui était. Mère et fils.
Oui, mais alors c'est du travail sur les couleurs, je dirais, à l'économie, hein, parce qu'il n'a pas de gros moyens. Donc, en fait, c'est avec des néons, des trucs comme ça, qu'il fait vraiment les nuages sur les couleurs. C'est très beau.
La scène de stroboscopie, c'est extraordinaire. Pour traduire le déchirement de la jeune femme, c'est fantastique.
Pour le spectateur, c'est très fatigant.
Oui. Non, c'est un réalisateur très très doué, mais où ce qui est peut-être le plus faible, c'est la conduite du début jusqu'à la fin du scénario.
Oui.
Qui n'est pas.
Le scénario surprend, c'est-à-dire qu'on n'attend pas toujours ce qui se passe. D'un autre côté, il a peut-être ce site vivant. Il n'est pas forcément attendu.
Oui, mais bon, la relation, par exemple, entre Ilana et son frère qu'on voit au début du film nous pose une question. Tiens,
Cette relation est très problématique, très ambiguë.
Très troublante et ambiguë.
Elle se dissipe ensuite, on n'en parle plus. Ouais. Oui.
De même qu'à la fin, on ne s'attend pas à ce que ce soit la fille qui accompagne les parents. Mais ces bifurcations sont peut-être intéressantes parce que, justement, au fond, c'est plus complexe qu'un scénario classique.
Oui.
Donc pour
j'ai pas été critique là-dessus. C'est intéressant que tout ne soit pas dit, expliqué, que ça a des ouvertures.
Oui, Non, moi, ce qui me paraît intéressant dans le scénario, c'est en fait les multiples pistes d'implosion de chacun des membres de la famille dans l'épreuve qui est la leur. Ça multiplie cette implosion qui était en cours déjà avant.
Oui.
Et que le kidnapping a provoqué.
Et puis avec des scènes qui sont extraordinaires, je pense à la scène de la douche et des cheveux séchés, etc.
C'est une violence.
Une violence,
ses cheveux. Ouais. C'est très beau le cadrage où on ne voit plus que la moitié de son visage. Parce qu'elle n'existe plus en entier, cette pauvre jeune fille.
C'est recherché, mais dans le bon sens du mot.
Oui.
Donc là encore, on va retrouver l'unanimité pour une fois pour ce film.
Il faut le suivre
à peu près. Donc maintenant, on va donc passer au coup de cœur. Ah oui, Jacques, tu voulais nous passer quelque chose tout à fait différent alors, La Belle et la Belle.
Ah ben oui, c'est plus La Belle et la Bête, c'est La Belle et la Belle. Alors c'est le dernier film de Sophie Filière. C'est une fantaisie surréaliste, un film léger comme un ballon ou comme une plume qui vole au gré du vent. Il met en scène deux femmes. La première s'appelle Margot, elle a 45 ans, elle est professeure d'histoire et géographie à Lyon et elle est jouée par Sandrine Kiberlin, absolument remarquable. La deuxième s'appelle Margot. Elle a 25 ans, elle est étudiante, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire de sa vie, et elle enchaîne les liaisons amoureuses éphémères, et elle est jouée par Agathe Bonitzer. Elle se rencontre à Paris, dans des circonstances d'ailleurs assez invraisemblables, et découvre qu'elles sont la même personne à 20 ans d'intervalle. Alors, ce scénario fantastique qui rappelle un peu celui de Camille Redouble de Noémie Lvovsky va nous mener dans une succession d'épisodes où l'aînée va prodiguer des conseils à sa cadette puisqu'elle sait à l'avance toutes les bêtises qu'elle va faire. Et tout en s'interrogeant elle-même sur ce qu'elle a fait de sa vie. Alors, là où l'affaire se corse, c'est quand elle rencontre un bel avocat lyonnais, joué par Melville Poupeau, qui a été le compagnon de l'aînée et dont la cadette va tomber amoureuse. Et donc, voilà les deux femmes qui sont amantes du même homme au même moment. Donc, à partir de là, spectateur, abandonnez toute rationalité, sinon vous...
Heureux homme.
Laissez-vous charmer par l'instant et surtout par la fantaisie des dialogues et notamment par le langage un peu décalé et souvent très cocasse de Sandrine Kiberlin. Car cette relation amoureuse incongrue et totalement irrationnelle conduit à une réflexion émouvante sur les sentiments amoureux, sur leur possible affadissement, mais aussi sur leur renaissance et leur permanence. Donc c'est un film plein de poésie, très bien joué, une réflexion sur le temps qui passe, sur les choix que l'on a fait dans sa vie, ce que l'on aurait pu faire, et sur l'amour. Donc un petit bijou intéressant.
Voilà, ben c'est bien noté. François, soit tu veux nous parler, Klaus, c'est beaucoup moins bijou.
C'est pas drôle du tout. America. Alors, Klaus Drexel est le réalisateur précieux qui nous a présenté il y a 4 ans Au bord du monde. Un documentaire remarquable sur les sans-abri à Paris. C'est eux qui vivent au bord du monde. Et aujourd'hui, son film, America, approche les laissés pour compte de l'Amérique profonde. Ceux qui ont mis tout ce qu'il leur reste d'espoir en Donald Trump et ont ainsi largement contribué à son élection. L'Arizona est justement un État, lui aussi, au bord du monde, côté Far West. Et Drexel commence son investigation juste un mois avant la date des élections présidentielles. Il va à la rencontre des habitants d'une petite ville, perdue au bord de la Nationale 66. Alors ils sont pompistes, barman ou cow-boys, armuriers, ferrailleurs ou femmes de ménage, ou encore gérants d'un motel ou d'une pizzeria. Paysage désolé de terrains vagues, hérissés de carcasses de voitures, de mobil-homes. Ici et là, d'immenses stations-service envahies par des herbes folles ou des préfabriqués, des hangars. Le rêve américain est bien mort. Reste le rêve d'un président qui va enfin les comprendre, eux, les pauvres, sans avenir. Le tableau est sidérant. Ici, un homme désigne avec fierté son seul trésor, une trentaine d'armes, fusils, carabines, pistolets, amoureusement rangés contre le mur de sa chambre. Là, c'est une jeune femme, enceinte jusqu'aux yeux, qui parle avec amour de sa collection d'armes, elle aussi, tout en caressant son ventre, de ses petites mains potelées. Et elle dit « Ah oui, le petit aura une arme. Vers 5 ans, je pense. Ça dépendra de sa maturité. Sic. » Le port d'armes, comme la peine de mort, sont des évidences qui ne se discutent pas. « Ah oui, dit encore cette jeune femme, moi j'aimerais bien assister à une exécution capitale pour voir ce que ça me ferait. » La première image du film est saisissante. On y voit deux hommes en train de dépecer un grand cerf abattu pendant la nuit. L'animal a été ligoté, écartelé sur un haut châssis de bois, et les deux hommes s'acharnent sur le grand corps sanglant. Leurs carabines sont posées à côté de leur 4x4, à terre il y a des canettes partout, ils sont ravis de leur partie de chasse. Et Donald Trump a été élu.
Oui, ben c'est très différent de la belle, effectivement. Bon, donc, à voir. Et puis, on va passer à Aung San Suu. Moi, j'adore Aung San Suu. Jean-Michel, tu voulais nous parler du dernier film d'Aung San Suu?
Oui, du dernier film. La caméra de Claire. Ce nouveau film du grand Coréen convaincra tous les amoureux, mais pas seulement, de son cinéma parfumé à l'alcool de riz, dont il existe une variante pétillante. Une fois encore, il a fait appel à Isabelle Huppert pour tenir compagnie aux acteurs de la presqu'île. Contrairement cependant à ce qu'on pourrait croire, ce nouveau film du romer coréen n'est pas seulement un nouveau verre de champagne ou une bulle de savon, c'est plus sérieux. Lors d'un voyage d'affaires au Festival de Cannes, la toute jeune Man Hee, vendeuse dans une boîte de films, est convoquée par sa patronne dans un café pour se voir accusée, sans explication, de malhonnêteté et brutalement licenciée. De son côté, Claire, enseignante et poète, la très anglophone Isabelle Huppert, se balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroid. Elle fait la rencontre de Manhi et sympathise avec elle. Claire pense d'une façon un peu magique mais assez futée qu'une photo prise d'une personne la transforme. Et elle impose cette conviction avec une feinte naïveté. C'est une histoire à quatre personnages, Manhi, Claire, la patronne, jalouse de Manhi, et Sceau, un réalisateur alcoolique, amant jusqu'ici de la patronne. Comme d'habitude, le scénario a l'air de s'inventer au fur et à mesure, mais ce film est une véritable épure, un bijou de conte moral, apparemment ténu, mais seulement apparemment, et dont les dialogues et les cadrages sont au meilleur de leur forme.
Oui, c'est le... C'est donc sans soupure, pur et dur.
Pur jus, mais ouais. Très très réussi.
Ben tant mieux. Et moi je voudrais clore cette émission avec un film qui rappellera sans doute un peu celui proposé par Jacques, hein, parce que moi j'avais parlé de Lady Bird, un film de Greta Gerwig, qui est une actrice déjà connue. On l'a vu dans Frances A, on l'a vu dans Mistress America. Mais cette fois, elle se lance dans la réalisation, et avec un gros bonheur, moi j'ai trouvé. Parce que je trouvais que son film, Lady Bird, est un petit bijou de drôlerie, d'émotion, de légèreté, de justesse. Il a une espèce une délicatesse de dessin à la plume. Il possède le charme d'une chronique d'adolescence évoquée avec un mélange de tristesse et d'acidité quand le passé est passé, et qu'on le regarde avec la lorgnette de la mémoire. Quand nous sommes en 2002... Et ce film raconte cette année-là dans la vie d'une jeune fille de 17 ans, Lady Bird. Alors, qui est Lady Bird? Déjà, elle ne s'appelle pas Lady Bird, mais Christine. Nom dont la banalité la supporte tellement qu'elle a voulu le changer, ne serait-ce que parce que sa mère, avec qui elle est comme chien et chat, l'a prénommée ainsi. Elle habite dans la ville de Sacramento et ne rêve que d'aller vivre à New York. Elle est élève dans un établissement catholique dont les règles l'exaspèrent. Ses professeurs, bof. Ses amis, en particulier celle Julie, aussi boulotte qu'elle, franchement, elle mérite mieux. Sa première et chaste relation amoureuse avec Danny, quel effondrement de le découvrir homosexuel. Sa véritable première fois, Kyle, oh, lui aussi raconte des histoires, elle le croyait vierge. Bref, on l'aura compris, rien dans la vie de Lady Bird n'est à la hauteur de ce qu'elle en attend. Adolescente en perpétuel déséquilibre et en surchauffe, elle se brûle à vouloir brûler les étapes, mais elle avance sans chuter de l'une à l'autre. La preuve, elle ira bien à New York. Et pourra alors regarder son passé avec cette lucidité railleuse et attendrie dont Greta Gerwig a nourri son film, créant une Lady Bird que la remarquable Saoirse Ronan incarne avec une énergie, une fragilité révoltée qui la rendent infiniment attachante. Voilà, donc je vous conseille très vivement d'aller voir cette comédie, peut-être à voir en même temps que La Belle et la Belle, je crois que ça fait un peu partie du même package.
Le style est très différent.
Et voici donc venu le temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Jacques et à Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté, que nous espérons retrouver à l'occasion de notre prochaine émission Chant contre Chant, qui aura lieu le mardi 24 avril de 13h15 à 14h.